Depuis 2009, le festival Ecozone rythme les printemps de la ville de Nanterre, en région parisienne. Chaque mois de mai, cette semaine d'actions environnementales propose ateliers, spectacles, portes ouvertes et autres expositions pour sensibiliser de façon conviviale à l'écologie. Pour l'édition 2022, organisée sous la thématique écologie et féminisme, l'association Dunia Éthique a eu l'opportunité de tenir un stand afin de sensibiliser les Nanterriens. De ces rencontres est né cet épisode. Bienvenue dans votre podcast DicoDD, le lexique digital qui vous aide à comprendre le développement durable en seulement quelques minutes. Je m'appelle Aïcha, présidente et fondatrice de l'association Dunia Éthique. Dans chaque épisode, je vous ferai découvrir un mot, une notion, une date, un concept ou une personnalité qui fait référence au développement durable. Dunia Éthique, avec l'aide de ses bénévoles, a proposé aux festivaliers d'échanger autour d'un micro sur ce qu'ils savaient du développement durable. Adultes, enfants, adolescents, mères de famille ou retraités, tous ont essayé tant bien que mal de définir ce que cette thématique représentait à leurs yeux. Les enfants, bien qu'ils aient du mal à trouver les bons mots, donnent l'impression d'avoir assimilé le champ lexical de l'écologie et les enjeux du développement durable. Leurs aînés, un peu moins. Isaac et Jules ont 10 ans et répondent à Dominique, retraité, qui avoue être noyé par trop d'informations. Eric, directeur d'école, investi par une mission de vulgarisation et d'action, donne sa définition du développement durable et détaille les initiatives de son école.
Ça ne me dit rien du tout. J'écoute beaucoup d'émissions, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'au niveau pédagogie, ce n'est pas ça. Mais bon, quand vous écoutez les chaînes de télé, ils vous parlent d'écologie, mais je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas du tout pédagogique. Donc, vous êtes là, vous vous dites, mais ça correspond à quoi tout ça ?
Écologie, ça veut dire déjà de prendre soin de la nature, d'être au courant de ce qui se passe autour de nous et de conserver la planète. Et voilà.
Je pense à la pollution, à l'écologie, quand on parle écolo, je pense du tri des déchets, de la sauvegarde des animaux en voie de disparition, de l'énergie solaire et de la reforestation. Je trouve que c'est très important à faire souligner, parce que si on ne fait rien, dans plusieurs années, nos enfants ou nos petits-enfants ne connaîtront pas ce paysage que nous avons vécu à cause de nous, hommes, qui avons pollué la terre et découpé les forêts.
Alors déjà, le développement durable, puisque on en a parlé à l'instant, c'est pour moi à la fois une nécessité absolue, pour la survie de la planète tout simplement et de l'humanité. Et puis c'est aussi surtout pour, dans une école comme la mienne, de favoriser le bien-être de la population et des enfants, et donc remettre de la nature là où il n'y en a plus trop. Et donc c'est la raison pour laquelle depuis de nombreuses années on végétalise la cour, on a créé un jardin botanique où on essaye de sensibiliser les enfants aux soins des végétaux, mais aussi à la découverte des petits animaux du jardin. Voilà. Et sur notre stand, justement, c'est ce qu'on a.
Il est évident que la définition du développement durable n'est pas encore claire pour tous. Elle est souvent confondue avec celle de l'écologie, qui reste encore un mot fourre-tout qui renvoie à la protection de la planète. Si ce raccourci est aussi évident, cela s'explique par le fait que le changement climatique, ses dangers, ses effets et ses bouleversements sont constatés de tous. Les enfants, comme Alia et Milena, les adolescents, comme Majdouline et Linda, les parents, comme Madame Zamoun, et les retraités, comme Dominique et Eliane, partagent le même constat, la pollution.
Parce que là, déjà, la terre est par un peu du mauvais sens. Elle tourne du mauvais sens, là.
Parce que déjà, il y a de la pollution. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, par exemple, qui trient les déchets. Ou il n'y en a pas beaucoup, par exemple, au lieu de les jeter dans la poubelle, ils les jettent dans, dans, dehors quoi, par terre. Et du coup, bah, la terre, elle est polluée. Et du coup, il y a de la pollution dans la terre.
Oui, parce que je pense que c'est pas rien, parce que le monde, il y a beaucoup de pollution. Et je pense que c'est important.
Je pense pareil que elle. Je pense que c'est important de végétaliser des rues pour les rendre un peu plus belles, les embellir. Ça peut donner peut-être de la joie à la ville.
Où elle va la terre. Parce qu'avec avec tous les déchets, avec tout ce qu'on voit, surtout quand ils font des fois, je vois des documentaires, quand ils sortent plein de déchets dans la Seine et tout, quand je vois les animaux qui meurent dans les pays, tout, quand je vois la pollution, même nous, dans les villes et tout, toute la pollution qu'on respire, c'est vraiment ça nous touche. Et après, on revient par rapport à la santé. Plein de gens, maintenant, ils tombent malades et tout. C'est par rapport à la pollution de la terre. Tout ce qui se passe et tout.
Où va-t-on et par rapport à ça et comment que ça va être, hein, parce que la terre, elle est polluée, hein, faut le dire. Hein, donc, dans les eaux, dans les mers, dans la nature, on trouve plein de déchets. Hein, donc, il faudrait que... C'est pour la santé des gens, c'est pour la santé de l'environnement, c'est pour les animaux, c'est pour la flore, c'est pour les animaux marins, quand vous voyez des tortues qui avalent du plastique, quand vous voyez des poissons qui mangent n'importe quoi, on retrouve du plastique. Justement, les poissons qu'on mange, ils ont du déchet plastique dans... Donc ça peut aller dans les humains mangent aussi
du plastique.
Du plastique. Et on nous dit manger du poisson, manger de la viande, bon, c'est sûr, même la viande hein, aussi. Il y a beaucoup de déchets. Hein, donc, après, plus ça va aller, comment que ça va devenir, ça nous fait peur. Quoi.
Hein, parce que, bon, quand j'ai vu tous les incendies en Australie l'été dernier, j'ai été en Australie parce que ma fille y habitait. Donc on connaît beaucoup de régions qui ont été incendiées et ça m'a fait vraiment... J'ai eu mal au cœur de voir tout ce qui est détruit comme ça, inutilement en fait, parce que je pense qu'on pourrait prendre des mesures justement pour éviter ça. Parce que bon, c'est sûr qu'il y a des pays où il fait 40, 45 degrés, 50 degrés. C'est très difficile de limiter, mais je pense que les gens ont une grosse responsabilité dans tout ça. Quand on voit ce qui se passe dans certains pays, je pense que c'est les gens qui ont une responsabilité.
La culpabilité, justement. À qui incombe la responsabilité de ce changement climatique que tout le monde semble apercevoir? Aux hommes, cela reste évident pour chacun de nos intervenants, mais à quelle échelle? Eliane, notre retraitée, se sent coupable, à titre personnel, comme au nom de l'humanité. Son témoignage résume assez celui que tous les autres nous ont partagé. Patrick, qui s'est présenté comme un climato-sceptique, ne remet pas en cause la réalité du changement climatique, mais il est plus mesuré quant à leurs effets immédiats. Il est surtout désabusé par l'inaction des instances gouvernementales et leur incrimination des citoyens.
Je me sens coupable. Je me sens coupable parce que je dis que nous, à la base, c'est nous qui devions, nous les citoyens, qui devons justement faire les choses comme il faut. Il ne faut pas attendre sur l'autre. Il ne faut pas attendre sur l'autre pour vous dire si vous devez faire ça. Nous, à la base, on devrait, puisque avec l'environnement, avec tout ce qui se passe, l'évolution des choses, la terre qui est polluée, tout ce qui est environnemental, il faut qu'on prenne conscience. Après, que les gens se sentent coupables, moi je pense que chacun devrait prendre un peu de responsabilité sur soi.
C'est vrai qu'il y a une action humaine, mais je pense qu'on traumatise beaucoup les gens aujourd'hui, et surtout les petites gens, c'est-à-dire les gens qui n'ont peut-être pas tout à fait les moyens, que ce soit au niveau des pays ou que ce soit au niveau des populations locales. On va culpabiliser des gens qui roulent encore au diesel parce que quelque part ils n'ont pas pu s'acheter une voiture hybride ou à hydrogène, etc. Bon. Ok, c'est sûr que l'hydrogène, si un jour on y arrive, ce sera formidable. Mais aller traumatiser ces gens-là, je pense que c'est pas bien.
Ce sentiment de culpabilité, conjuguée à l'urgence de la situation, pousse les personnes à agir dans leur quotidien. Stéphanie, jeune maman de Solveig, et nos retraités Eliane et Dominique nous détaillent les actions qu'elles mènent à leur échelle. Tant bien que mal, elles trient, évitent la surconsommation et transmettent leurs connaissances à leurs enfants. Et cette transmission porte ses fruits. Les discours de Jules et Isaac, 10 ans tous les deux, impressionnent par leur maturité, mais surtout par leur révolte. Une prise de conscience qu'Éric, le directeur d'école, a également constatée chez les enfants.
Essayer de réutiliser des choses, de ne pas jeter dès que ça ne marche plus, ou d'essayer d'acheter des choses de seconde main, par exemple. Pour les vêtements de Solveig, on a souvent pris des vêtements d'occasion pour essayer de ne pas acheter des vêtements qui, après, au bout de 6 mois, ne serviront plus. Ou des choses toutes bêtes comme tout ce qui est pour le goûter, on essaye de les faire à la maison plutôt que d'acheter des choses hyper emballées et qui finissent à la poubelle. Pareil pour des petites compotes ou des choses comme ça. Essayer de lui expliquer que c'est bien de faire nous-mêmes, essayer de faire nous-mêmes plutôt que d'acheter et de jeter.
J'essaye de faire comme beaucoup de gens, le tri sélectif, vous voyez, des choses qui sont banales en fait aujourd'hui. Mais je me dis, les océans, la planète, le nucléaire, je me dis, mais on essaie de nous faire emmagasiner tout un tas d'informations et je trouve que ça, c'est pas suffisamment sélectionné, voyez, trié.
Chez soi, déjà, les premiers gestes à faire, c'est chez soi, faire ce qu'il y a à faire, mettre de côté tout ce qui est carton, plastique. C'est pas encore bien mis au point, parce que on a du mal chez soi à mettre de côté plastique, carton, tout ce qu'il faut. Même moi, je ne fais pas vraiment. Enfin, si, de temps en temps, je mets les bouteilles à part. Avec mon mari, on met les bouteilles à part, le carton à part. Mais après, quand vous descendez à la poubelle, vous mélangez tout, en fait.
Oui.
Vous avez séparé à la base, chez soi. Et après, on descend, on met dans un bac
qui ne
correspond pas. Voilà, exactement. Donc, je dis, si, c'est quelque chose qui est très important de nos jours. Il faut en parler. Et puis, chacun gérer à sa façon le problème.
Déjà, commencer à arrêter de découper les forêts pour continuer à faire préserver les animaux. Aussi, au lieu d'utiliser l'électricité, mettre des panneaux solaires pour capter l'activité solaire pour utiliser moins d'énergie. Et aussi, trier ses déchets parce que sinon, ça va dans la mer. Et c'est les tortues et c'est ce qu'on mange qui va terminer dans notre assiette.
On pourrait arrêter les consommations de haute tension d'eau.
Mm-hmm.
Et arrêter de tout le temps vouloir avoir un chauffage chez lui quand il fait chaud. Et parfois aussi, il faut que l'humain il se rende compte de ce qu'il fait. Et par exemple, essayer d'avoir des trucs plus écolos et continuer à le faire.
Déjà, pour sauver l'espèce animale, on peut arrêter de jeter nos déchets dans l'eau, sur le sable, par terre. Parce qu'après, ça termine dans les océans, dans les forêts et mangé par les animaux. Arrêter la déforestation parce que ça tue beaucoup d'animaux. Qu'on ait tous droit au moins à la nourriture, qu'on ait tous droit à la faim, qu'on ait tous des habitations durables et qu'on ait tous des égalités. Pas que les hommes soient plus grands que les femmes ou que les femmes soient plus grandes que les hommes. Des égalités, que tout le monde ne soit pas pauvre et que tout le monde soit même stable. Et qu'il y en a qui ne soient pas plus riches que d'autres, qui soient plus pauvres. Et moi, j'aime pas ça de voir des riches qui narguent les pauvres qui sont à la rue. Moi, je déteste ça.
Alors, c'est dans la tête de beaucoup d'enfants, puisqu'il y a beaucoup de reportages à la télé. Oui, bien sûr, il y a eu un changement de ce côté-là par rapport à il y a 10, 20, 30 ans. Mais ce n'est que très, très progressif. Là, le fait que, par exemple, on ait de plus en plus d'incidents météo violents ou de canicules, ça, c'est très, très concret, si vous voulez. Et donc, la prise de conscience, elle ne se fait pas simplement par l'apport de connaissances, soit dans le cadre des cours, soit par les différents médias. Elle se fait aussi par l'expérience vécue par les enfants. Et là, c'est pour ça que je reviens sur ce que font les enfants dans le jardin ou la culture du potager. Ils voient tout le bénéfice qu'ils en retirent. Et l'idée, c'est vraiment celle-là, c'est de montrer à la fois à leurs parents et aux enfants qu'on a tout à gagner à ce développement durable et donc aux objectifs qui sont reconnus par l'ONU depuis 2015. Hein, et donc, on va tous y mettre.
Il est très important que les plus jeunes d'entre nous comprennent les enjeux du changement climatique. Il faut absolument qu'ils soient à l'aise avec les thématiques du développement durable et qu'ils luttent pour leur assimilation. C'est leur futur dont il est question. Les parents, s'estimant moins concernés, se chargent de sensibiliser leurs enfants. Stéphanie, par exemple, considère que c'est son rôle d'échanger avec ses enfants sur le sujet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les enfants sont réceptifs. Comme le dit Isaac, tout dépend des grands.
On essaye de lui expliquer, après c'est pas facile, on essaye de lui expliquer que voilà, bon, faut pas jeter, mais même quand on produit, qu'après ça finit à la poubelle, c'est pas bon pour la planète, ça veut dire qu'on a utilisé de l'eau, ça veut dire qu'on a utilisé beaucoup de choses de la planète, et qu'après ça finit voilà, à la poubelle. On essaye de lui faire comprendre ça, mais je pense que c'est encore pas clair dans sa tête. J'ai l'impression qu'elle est réceptive, après je pense qu'elle l'est un petit peu parce que nous on l'est, mais qu'elle ne comprend pas encore très bien. Et voilà, on essaye depuis petite de lui expliquer ce genre de choses.
Je me dis, mais j'ai pas l'impression que moi je suis concernée par ça. Mes petits-enfants le sont. Par contre, quand on discute avec eux, ils sont complètement concernés. Ils savent de quoi on parle. Ils ont des avis sur tout. Mais moi, j'avoue que je me dis, mais ça correspond à quoi tout ça ?
Nous, en tant que parents, je pense que c'est notre rôle. Enfin, pour moi, c'est sûr que c'est notre rôle. Voilà, il faut leur expliquer pour qu'au quotidien, ils voient des actions et qu'ils comprennent pourquoi. À l'école, ça serait bien. Pour l'instant, je vois pas ce qu'ils font à l'école. Je sais pas s'ils font des choses ou pas, mais je ne le vois pas. Mmh. Mais peut-être qu'ils font... voilà.
Je pense que ça dépend, tout dépend des grands aujourd'hui, car s'ils apprennent aux petits, la planète sera peut-être meilleure qu'aujourd'hui.
Cette sensibilisation passe également par l'éducation nationale. Si les adolescents nous ont expliqué qu'au collège, le sujet n'était pas suffisamment abordé, les enfants, eux, sont plus souvent sensibilisés par leurs écoles aujourd'hui, notamment via des approches ludiques mais efficaces.
Oui, le maître nous a déjà parlé, parce que la dernière fois on avait parlé de... Parce que oui, le maître nous a parlé de ça, il nous a même montré des vidéos où il y a un petit singe, et il est parti dans la chambre d'une petite fille, et il a commencé à raconter tout ce qui s'est passé, et après la petite fille, elle a dit on va te protéger et tout et tout. Parce qu'en fait, il avait vu le petit singe qu'il y a des hommes dans la forêt qui détruisent les arbres, et du coup il perd sa famille. Et après, du coup, il s'est retrouvé tout seul et du coup, il est parti dans la ville des humains, dans le village, et il a réussi à rentrer dans la porte de la petite fille, il a réussi à lui expliquer tout ça.
Oui, bien sûr, parce que des fois, ils me rapportent qu'est-ce qu'ils font à l'école et tout, qu'est-ce qu'ils font dans les centres de loisirs. Et sincèrement, notre école à Balzac, et avec leur directeur, ils parlent beaucoup de ça. Ils sont vraiment, ils leur montrent tout ce qui va pas. Ils ont ils participent aussi dans le jardin. Ils participent pour faire attention à tout ce qui est plante, tout ce qui est bêtes, et leur montre pourquoi et tout. Ils parlent beaucoup avec moi.
Par rapport à que ce soit au jardinage, à la création de potagers, au bricolage que ça engendre, etc., ils sont très, très demandeurs et très partants. Donc c'est un point fort de notre école. Et ils voient eux-mêmes, si vous voulez, ce que ça leur apporte, puisque Là, par exemple, dans la cour, on a créé de grands bacs avec des arbustes et donc du coup avec des bancs, et du coup les enfants sont à l'ombre, et au lieu d'être de devoir supporter le soleil qui est déjà très fort là en ce moment, hein. Voilà, donc c'est un bien-être supplémentaire, et je trouve que l'approche du développement durable, elle doit se faire d'abord de ce côté-là, c'est-à-dire montrer aux gens qu'ils gagnent en bien-être et pas forcément contraire avec des contraintes très fortes et donc une perte soit de liberté, soit de confort. Le développement durable, ça peut être au contraire plus de confort, plus de liberté, plus de bien-être. Et c'est ça qu'on essaye de construire avec nos élèves et avec leurs familles.
Et demain dans tout ça, Stéphanie agit auprès de sa fille Solveig pour que cette dernière puisse affronter ce que l'avenir lui réserve. Un avenir que Jules, du haut de ses 10 ans, estime en danger. Face à l'urgence de la situation, les hommes n'ont pour lui finalement pas d'autre choix que d'agir. Des actions que Dominique, bien plus expérimenté, craint de ne pas voir de sitôt.
Et voilà, nous on se dit, si on agit maintenant, elle après fera des actions plus tard. Et puis c'est pour elle, pour que la... oui, c'est pour elle, pour que la planète soit encore à peu près en bon état, ou pas trop mauvais état, quand elle sera plus grande. Et que voilà, qu'elle sache agir. Si elle agit maintenant avec nous, elle aura des gestes qu'elle fera dès maintenant pour plus tard, continuer plus tard.
Je ne sais pas comment sera demain ni après-demain, mais j'espère que tout ça changera bien vite. Parce que si on ne fait rien, la pollution, les hommes, ce que font les hommes avec la pollution, envahira la Terre, et après nous n'aurons plus rien à faire, plus rien à manger, et nous mourrons à notre tour. Je suis confiant parce que je pense que les hommes vont peu à peu comprendre que si on ne fait rien, l'espèce animale ou ce qu'on mange commencera à disparaître. Nous, on sera obligé de faire d'autres on sera obligé d'aller manger autre chose, ce qui nous donnera des maladies ou des choses comme ça, ce qui nous entraînera peut-être à la mort. Voilà.
Moi, je pense qu'on peut y arriver. Sincèrement, je le crois, j'y crois. Hein. Mais je pense que ça sera beaucoup plus long que ça. Je crois que dans les 20 ans qui viennent, à mon avis, il faudrait déjà que les politiques changent complètement, à mon avis. Donc ça, c'est un gros problème. Hein. La politique, je pense que c'est un gros problème. Même quand on regarde le parti écologique, déjà, il y a des tensions au sein de ce parti. Donc je me dis, mais où il est l'écologie dans ça? Où il est? Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que ça va demander, à mon avis, plusieurs décennies avant qu'on voit une amélioration, je pense. Hein. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Hein.
Cette journée au Festival Écozone a été révélatrice pour Dunia Éthique et ses bénévoles et a confirmé notre vocation de sensibilisation et de vulgarisation du développement durable. Bien que consciente des effets négatifs du changement climatique, les personnes rencontrées ne maîtrisent pas encore toutes les nuances de cette thématique qu'elles confondent avec l'écologie. Les notions de développement éthique et d'équité pour tous sont totalement éclipsées par la lutte contre le changement climatique. Et face à l'urgence de la situation, les personnes rencontrées semblent démunies. Alertées par les médias et les associations, elles s'inquiètent. Abandonnées par leur gouvernement, elles culpabilisent. Les adultes semblent désabusés et tant bien que mal, tentent de protéger leurs enfants contre ce sentiment. L'école, par exemple, par l'intermédiaire de professeurs et de directeurs motivés, sensibilise au quotidien les enfants aux enjeux de leur avenir. Ces enfants, qui tous, sans exception, nous ont impressionnés par leur recul et la compréhension des défis de leur génération. Entre leurs mains, l'avenir pourrait peut-être être radieux. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. C'était DicoDD, le lexique digital consacré au développement durable, proposé par Wana Media en collaboration avec Dunia Éthique. Un programme disponible sur votre plateforme préférée et sur tous les réseaux sociaux.